De nouveau, à l'épître aux Romains, pour commencer. Romains 8. Cette fois, j'ai divisé le sujet en 7 ou 8 points, mais on va lire d'abord quelques passages. Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être derechef dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption. On pourrait traduire, comme on va voir l'épître aux Éphésiens, ça veut dire mis dans la position de fils. Donc adoption veut dire mis dans la position de fils. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et puis, dans le verset 19, « Car la vive attente de la création attend la révélation des fils de Dieu. » Verset 23, « Mais nous-mêmes aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. » Verset 28, « Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. » C'est d'ailleurs aussi un verset qu'on va avoir la prochaine fois, Dieu voulant. Puis dans Galates, l'Épître aux Galates, le chapitre 3. Verset 23. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermés pour la foi qui devait être révélée. De sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ, afin que nous fussions justifiés sous le principe de la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un conducteur, car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi, dans le Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni mâle, ni femelle, car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tout, mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi aussi nous, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde, mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Je lis la note maintenant. C'est la réception de la position de fils comme don. Donc c'est clair en rapport avec le fait que nous sommes fils. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs, criant Abba Père. Maintenant l'épître aux Éphésiens. Premier chapitre. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Puis, jusqu'ici pour le moment. D'abord, quelques pensées comme introduction. On a vu que nous sommes placés dans des relations différentes, individuelles, comme esclaves, disciples du Seigneur, comme enfants de Dieu aussi, et maintenant ce sujet, fils de Dieu. Et puis, nous avons vu la dernière fois que les enfants de Dieu sont donc une nouvelle génération qui représente Dieu dans ce monde. Maintenant, dans un monde où Christ est rejeté, nous sommes associés donc à un Christ rejeté, et plus tard, nous représenterons Dieu dans l'univers. Dieu sera vu par l'Église. On a vu là que les enfants de Dieu sont présentés sous l'image de l'épouse, Apocalypse 19, et aussi sous l'image de la cité céleste, pour que la gloire de Dieu se voit par eux. Donc la pensée de l'enfant de Dieu, des enfants de Dieu, c'est que Dieu est vu dans ce monde par les enfants de Dieu. Maintenant, en rapport avec un Christ rejeté, nous sommes dans le désert, et plus tard, dans l'univers, publiquement, ensemble avec Christ. Donc c'est toujours cette pensée-là d'un témoignage pour Dieu dans ce monde. Et nous avons vu aussi que nous sommes les objets de l'amour du Père. C'est une caractéristique des enfants de Dieu que le Père nous aime, que le Père prend soin de nous. Maintenant, les fils de Dieu. C'est clair que les deux sujets sont très proches l'un de l'autre, donc intimement liés l'un à l'autre. Mais quand même, il y a des différences, des distinctions à faire. Le point le plus important, je pense, dans les fils de Dieu, c'est que ce que nous sommes pour le cœur de Dieu. C'est clair, comme enfants de Dieu, nous sommes aussi là pour le cœur de Dieu. Nous représentons Dieu pour en même temps satisfaire le cœur de Dieu. Mais les fils de Dieu, on va voir, c'est plutôt en rapport avec l'adoration, avec la communion avec Dieu. Donc, ce que nous sommes pour Dieu. Et c'est pour ça que j'ai souligné dans la lecture ce verset-là, dans Éphésiens 1, verset 5, qu'il nous a adoptés pour lui, ou pour lui-même. Ça, c'est la pensée que j'aimerais souligner en rapport avec les fils de Dieu. Ce que nous sommes pour Dieu lui-même, pour satisfaire son cœur. Et puis, cette position qui est présentée dans la parole, ici dans les écrits de l'apôtre Paul, c'est vraiment, on peut dire, l'apogée du ministère de l'apôtre Paul. Nous avons vu que le ministère de l'apôtre Paul nous présente des bénédictions collectives, comme nous appartenons à l'Église, comme corps de Christ, comme la maison de Dieu, et aussi comme l'épouse de Christ. Ce sont des bénédictions collectives en rapport avec Christ comme homme dans la gloire, uni avec lui même, uni à lui. Mais les fils de Dieu, ça parle du fait que nous sommes aussi liés à Dieu lui-même et que nous avons un lien très spécial avec le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Donc c'est une compagnie, on peut dire. Les fils de Dieu, c'est toujours au pluriel, comme les enfants de Dieu aussi. Les fils de Dieu, c'est une compagnie de fils qui sont associés au Fils de Dieu glorifié. Donc ça pour voir la différence entre les enfants de Dieu et les fils de Dieu. Probablement, on va revenir à ce sujet encore plus tard. Maintenant, on a vu toujours que Christ est présenté d'abord comme l'esclave parfait, comme le disciple parfait. Et nous avons vu la dernière fois, le Seigneur Jésus n'est jamais indiqué comme étant enfant de Dieu. Mais quand même, comme homme, il était né de Dieu. En rapport avec le sujet fils, nous voyons que le Seigneur Jésus est le fils. Pour nous, c'est toujours au pluriel, les fils ou l'adoption, comme nous avons vu. Mais pour le Seigneur Jésus, il prend vraiment une place unique. C'est 5 fois dans la parole que nous lisons le fils unique. Et une fois, je pense, le fils du Père. Quelle pensée que le Père a un fils pour lui-même. C'est une joie spéciale pour le cœur du Père. Et aussi l'expression dans Jean 1, verset 18, « Le Fils unique dans le sein du Père ». Ça, c'est vraiment tout spécial, toujours au singulier. Le Seigneur Jésus est donc suprême, pas seulement suprême, non, il est unique. Il est suprême lorsqu'on parle des relations qu'il partage avec nous. Mais ici, nous voyons donc une relation où il est unique, qu'il ne peut pas partager avec nous. Parce qu'il était avant l'incarnation, il était le Fils du Père. Il était le Fils éternel. Et après l'incarnation aussi, le Seigneur Jésus n'a jamais arrêté d'être le Fils unique de Dieu. Dans ses souffrances, dans sa mort, on voit toujours qu'il est unique. Et aussi dans sa résurrection, et on peut dire maintenant dans sa gloire, comme tel, il est vraiment unique. Et puis, ça c'est donc un sujet, on ne peut pas sonder maintenant, mais juste pour mentionner que ce sujet concernant le Seigneur Jésus comme le Fils est vraiment un sujet très important. Et puis ça a donné, même aux Juifs, beaucoup de difficultés. On peut le lire dans l'Évangile selon Jean. Ils n'ont pas compris qu'un homme était en même temps co-égal au Père. Quoique homme, on peut dire, il est une personne qui était co-égal au Père. Mais quoique Dieu, il était en même temps une personne soumise au Père. Ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence humaine. C'est impossible. Ça montre la grandeur de la personne. Et les Juifs l'ont condamné lorsqu'il a dit qu'il était le fils de l'homme, mais aussi le fils de Dieu. Ils l'ont condamné. Ils n'ont pas compris ça, ni accepté. Mais maintenant, il y a aussi un rapport avec Christ. On voit donc d'un côté que, comme fils, le Seigneur Jésus est unique, et d'un autre côté, il y a aussi un lien spécial avec lui. Mais c'est sur la base de son incarnation, du fait qu'il est devenu chair. Mais pas seulement cela, on a vu ce matin, Jean 6, sur la base de sa mort et de sa résurrection, nous pouvons avoir des liens avec lui. S'il était homme seulement, il avait vécu ici-bas, puis il serait monté en haut, sans la mort, sans la résurrection, nous serions encore seuls, sans lui. Mais maintenant, il y a ce lien avec lui. Et on aimerait aussi souligner ça, parce que si nous sommes maintenant des fils de Dieu, c'est à cause du fait qu'il y a un lien très spécial avec le Fils. Et puis, nous avons vu, je pense, dans Romains 8 déjà, que c'était selon le propos de Dieu, dans le verset 29, oui, « Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » On voit ici donc que c'était dans le propos de Dieu, dans le conseil de Dieu, d'avoir conformes à l'image de son Fils. Donc ça donne maintenant le lien. Comme Fils unique du Père, il est vraiment unique. Mais maintenant, vu comme homme aussi, le Fils est maintenant notre modèle et Dieu veut que nous soyons rendus conformes à l'image de son Fils. Pour quelquefois, on va sauter donc de Romains à Galates ou à Éphésiens, c'est selon le sujet. Dans Éphésiens 1, nous avons d'abord cette pensée-là dans le verset 4, que Dieu nous a élus en lui avant la fondation du monde. Ça, c'est donc une caractéristique pour les fils de Dieu, pour que nous fussions saints et irréprochables. Ça, c'est pas seulement en rapport avec les fils, parce qu'aussi comme enfants, nous sommes saints et irréprochables. On a vu que nous avons maintenant la nature divine. La nature divine, c'est la lumière. Et ce que Dieu est essentiellement, c'est l'amour. Voilà, ces deux aspects, on les trouve dans le verset 4. Saints et irréprochables, en rapport avec la lumière. Mais aussi en amour. Donc, on peut dire, ça parle encore du fait que nous sommes aussi des enfants de Dieu. Mais ça va maintenant plus loin, dans le verset 5, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui, ou pour lui-même. Et ça, c'est donc vraiment un point qu'on devrait souligner. Que Dieu voulait avoir une portion pour lui-même, avant la fondation du monde. Donc, pour cela, il est nécessaire que nous soyons enfants de Dieu, verset 4. Mais ça va plus loin. Dieu voulait nous avoir pour lui-même. Et puis, il ajoute dans le verset 5, « selon le bon plaisir de sa volonté ». On va voir quelquefois cette expression, « le bon plaisir », en rapport avec les fils. On ne le trouve pas en rapport avec les enfants, mais en rapport avec les fils, on trouve cette expression quelquefois, « le bon plaisir ». Donc, ça nous parle aussi d'une nouvelle position dans laquelle Dieu nous a introduits. Verset 5, n'est-ce pas? Cette adoption, une nouvelle position. Maintenant, si je donne 7 ou 8 points en rapport avec les fils de Dieu, le premier point donc vraiment à retenir, c'est quelque chose pour Dieu lui-même. Pour lui-même. Ça, c'est essentiel. Pour répondre à son amour. Ce n'est pas seulement pour représenter Dieu, pour montrer ce que Dieu est en lui-même, comme enfant de Dieu, mais c'est maintenant pour donner une réponse à son amour. Et cela, selon le modèle du Seigneur Jésus. On peut dire, le Fils, quoi qu'il soit unique, il est notre modèle dans ce sens-là. Le Seigneur Jésus a donné une réponse pendant sa vie ici-bas pour satisfaire le cœur de Dieu. On a vu aussi que Dieu avait réservé ça avant la fondation du monde déjà. Dieu voulait avoir cette portion avant toute autre chose. Il l'avait réservé avant la fondation du monde. On va voir ça plus tard, Dieu voulant, en rapport avec l'héritage. À la fin de cette étude, j'aimerais parler surtout de l'héritage, que nous sommes les héritiers. Ici, on peut dire que cette nouvelle position se réalise parfaitement dans le ciel. Ce propos de Dieu était donc avant la fondation du monde, avant que la création commence. Et puis, on peut dire que pour avoir cette réponse parfaite, Dieu va l'avoir dans le ciel, où nous serons avec lui pour toute l'éternité. Mais vous voyez, ce sujet de fils de Dieu est très important pour nous aussi aujourd'hui, parce que Dieu veut avoir une réponse déjà maintenant. Et avec quelques passages dans la parole, on va voir ça, que Dieu veut avoir déjà cette réponse maintenant. Une autre chose à considérer, que c'est celle-ci, que cette position et cette bénédiction va plus loin que ce que nous avons dans le verset 3 que nous avons lu. Là, nous avons vu que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est donc quelque chose que Dieu nous a donné. C'est très riche. C'est pas des bénédictions terrestres, ni des bénédictions spirituelles comme la nouvelle naissance. Dans Jean 3, nous lisons que la nouvelle naissance, c'est une bénédiction, mais c'est pas une bénédiction dans les lieux célestes. Donc, ce sont des choses très spéciales que Dieu nous donne ici. Mais cette position de fils de Dieu va encore plus loin, parce que ça donne une réponse sur la base de ce verset-là. On peut dire, peut-être pour expliquer ça, et on va voir ça en rapport avec l'héritage aussi, dans l'épître à Tite, l'épître de Paul à Tite, nous lisons d'abord dans le premier chapitre, verset 2, « Dans l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. » On a ici donc la même pensée, ce que Dieu avait réservé avant la fondation du monde. Il a promis, sans doute, au Seigneur Jésus. Et puis, c'est la vie éternelle que Dieu a promise. Puis, dans le chapitre 3, nous voyons donc dans le verset 7, « Ayant été justifiés par sa grâce, nous devincions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. » On va revenir à cet aspect-là de l'héritier. Mais c'est donc quelque chose que Dieu avait réservé déjà avant la fondation du monde, avant que le monde fût. Et ça, c'est très important à comprendre. Et ces choses-là, Dieu les a réservées pour ses fils, pour que ses fils donnent cette réponse. Maintenant, ce point-là, que Dieu veut que nous réalisions cette nouvelle position déjà maintenant. On va réaliser cette position de fils de Dieu d'une façon parfaite lorsque nous serons au ciel, sans doute. Là, il n'y a pas de péché, pas de problème. Là, on va répondre 100% au désir de Dieu, pour satisfaire le cœur de Dieu. Mais quelle joie pour le cœur de Dieu d'avoir une réponse déjà maintenant de notre part. Dans un monde où Christ est rejeté, où Dieu est rejeté, d'avoir une réponse de ses fils. Ça, c'est très spécial pour le cœur de Dieu. Puis là, ce point, j'aimerais diviser en trois détails. Cette réalisation maintenant, on a d'abord le Seigneur Jésus comme notre exemple. Nous voyons comment le Seigneur Jésus était le bon plaisir pour le Père. Et puis, à l'âge de 30 ans, les cieux étaient ouverts et Dieu a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon bon plaisir. » Donc là, nous voyons le Seigneur Jésus comme le modèle pour les fils de Dieu. Si le Seigneur Jésus, dans ce temps-là, était le bon plaisir du Père, Dieu veut que nous, maintenant, soyons des fils pour son bon plaisir. Puis le deuxième exemple, c'est Israël. Nous savons, connaissons tous probablement ce verset dans Exode 4, où Dieu a donné son propos, et ça c'est pas le propos dès avant la fondation du monde, mais juste en rapport avec Israël, mais c'est la même pensée de fils Dans Exode 4, nous lisons verset 22, « Et tu diras au Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. » Et aussi dans le chapitre 5, verset 1, au milieu, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. » On voit donc clairement le plan de Dieu pour Israël était d'avoir une réponse pour lui-même, afin que le peuple le serve. Donc ici, le peuple comme ensemble est indiqué comme étant son fils, son premier-né. Et nous voyons que plus tard, le Seigneur Jésus a accompli cette image-là. Israël a manqué, le Seigneur Jésus l'a accompli. Donc ces deux exemples, d'abord l'exemple parfait du Seigneur Jésus et aussi l'exemple d'Israël, le plan que Dieu avait en rapport avec Israël, peuvent nous aider pour réaliser ce désir de Dieu. Nous avons besoin donc de la délivrance, comme Israël avait besoin d'être délivré du Pharaon. Nous avons besoin, comme on va voir plus tard aussi, de la discipline. Et nous avons aussi cette pensée-là que Dieu veut nous transformer. Et juste encore un verset dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, où nous voyons quelle joie que c'est pour le cœur de Dieu, dans Proverbes 10. C'est donc en rapport avec cette pensée que Dieu veut que nous soyons des fils. Maintenant, Proverbes 10, verset 1, « Un fils sage réjouit son père. » C'est ça que Dieu veut. Il veut que nous soyons un réjouissement pour son cœur. Maintenant, quelques caractéristiques des fils de Dieu. On a vu dans l'Épître aux Galates qu'un petit enfant peut être placé sous des conducteurs. Un petit enfant a les droits sur l'héritage, mais un petit enfant ne jouit pas encore de cet héritage-là. Et pas seulement ça, un petit enfant ne peut pas communiquer avec son père. Le père ne peut pas partager avec lui vraiment les intérêts de son cœur. Donc, une première caractéristique, excusez-moi, des fils de Dieu, c'est qu'ils ont les mêmes intérêts que le père. On peut comprendre cela avec un exemple bien pratique. Si un père a une entreprise et puis il a des fils, il aimerait que ses fils aient le même intérêt. Et puis, il ne peut pas partager ces pensées-là lorsqu'ils sont des petits bébés. Il attend jusqu'à cet âge fixé. On peut dire d'abord, il les a dans l'entreprise et ils ont besoin d'être instruits, tout ça. Mais à un moment donné, où l'époque fixée par le père vient, là, ils peuvent avoir cette position de fils. Ils peuvent devenir des directeurs ou quoi que ce soit. Puis là, on voit qu'ils ont le même intérêt que le père. Et si on se rappelle cette expression, cette belle expression, le bon plaisir, c'est vraiment le bon plaisir du père de pouvoir partager avec ses fils ses intérêts. C'est vraiment une joie pour le père. Donc, on a vu cette expression, le bon plaisir, en rapport avec le conseil de Dieu. C'est merveilleux. Avant la fondation du monde, Dieu avait ce conseil, c'était selon son bon plaisir. Deuxièmement, nous avons vu que Dieu a trouvé son bon plaisir dans le temps, dans un fils. Et maintenant, juste revenir à Proverbes, maintenant, chapitre 3. Dieu veut avoir aussi son bon plaisir en nous, en vous et moi. Proverbes 3, verset 12. « Car celui que l'Éternel aime, il le discipline, comme un père le fils auquel il prend plaisir. » Donc, cette expression, « comme un père le fils auquel il prend plaisir. » On va revenir à ce sujet de la discipline. Mais maintenant, c'est donc juste pour mentionner ces trois points en rapport avec le bon plaisir. Une autre caractéristique des fils de Dieu, c'est qu'ils ont l'intelligence, ils comprennent les choses. Pour pouvoir communiquer avec nous, il fallait que nous ayons cette intelligence spirituelle. C'est remarquable de voir ça dans Colossiens 1, si on lit tout le chapitre, on n'a pas le temps maintenant, mais aussi dans Éphésiens 1, nous voyons que nous avons maintenant cette capacité à comprendre ces choses-là. C'est donc une capacité spirituelle, une intelligence spirituelle pour que Dieu puisse partager avec nous ses pensées. Ça va donc plus loin que les enfants de Dieu. Une autre caractéristique, c'est maintenant l'amour pour Dieu. Et maintenant, c'est pas nécessaire de retourner chaque fois à ces passages-là, mais on se rappelle cette expression dans Romains 8, ceux qui aiment Dieu, dans Romains 8, verset 28. C'est pas là ceux que Dieu aime. C'est ça que nous avons vu la dernière fois, en rapport avec les enfants de Dieu. On a vu dans Jean 13, 14, 15, etc., et aussi dans 1 Jean, l'amour du Père pour nous. Mais les fils de Dieu, c'est, leur caractéristique, c'est que eux aiment Dieu, eux aiment le Père. Et puis cette expression, donc, ceux qui aiment Dieu, on trouve quelquefois dans le Nouveau Testament. Puis c'est merveilleux, c'est vraiment ce que Dieu aime voir dans des fils. C'est une caractéristique, ceux qui aiment Dieu. Les enfants de Dieu sont aimés de Dieu. Les fils de Dieu aiment Dieu, ceux qui aiment Dieu. Et puis, en rapport avec ça, on a donc l'autre point, cette réponse. On a lu dans Romains 8 et aussi dans l'Épître aux Galates, Abba Père. Par cette intelligence, par cet amour pour Dieu, pour le Père, nous sommes aussi capables de donner cette réponse Abba Père. Et ce n'est pas en relation avec les enfants de Dieu, mais les deux fois, c'est en relation avec des fils qui donnent cette réponse Abba Père dans l'adoration. On va revenir à l'adoration plus tard. Et aussi dans la communion. C'est vraiment aussi une caractéristique. Le Père communique avec ses fils et les fils donnent une réponse. Ça, c'est la communion, comme on le trouve aussi dans 1 Jean 1, la communion avec le Père et avec le Fils. Et on peut dire donc que le propos de Dieu se réalise pratiquement lorsque nous donnons cette réponse, déjà maintenant. Une autre caractéristique, nous avons lu dans Romains 8, une caractéristique, et on va revenir sur ce point-là aussi plus tard, mais c'est que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Là, c'est de nouveau cette réalité. Tous les enfants de Dieu, tous les croyants, tous les chrétiens ont l'Esprit, mais ils ne sont pas tous dirigés par l'Esprit. Ça, c'est le point. Donc, une caractéristique des fils de Dieu, c'est qu'ils sont conduits par l'Esprit. Dieu veut donc la réalité. On peut confesser que nous avons l'Esprit. Et chaque chrétien a l'Esprit. Mais malheureusement, pas tous les chrétiens sont conduits par l'Esprit. Une autre caractéristique des fils de Dieu, c'est la discipline. Et ça, c'est donc une grande différence avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était toujours le Fils, selon le bon plaisir du Père. Mais pour nous, nous avons besoin de la discipline afin que nous devenions vraiment le bon plaisir du Père, comme nous avons vu dans Proverbe 3. Et dans Hébreux 12, nous voyons ce sujet, je mentionne ça simplement. Là, on voit vraiment la discipline. Le Père discipline, là. C'est Hébreux 12. Et puis, là, on voit donc trois attitudes. On peut négliger la discipline. On peut être découragé à cause de la discipline. Ou on peut être exercé par la discipline. Et si on est exercé par la discipline, ça produit ses fruits de la justice. Et puis, ça nous aide à réaliser notre position comme fils. Un autre verset, on trouve aussi dans Apocalypse 3, que c'est l'amour du Seigneur s'il nous châtie, s'il nous discipline. Mais c'est en vue de ce désir du Père, de ce désir de Dieu, d'avoir des fils qui peuvent communiquer avec lui, qui peuvent l'adorer. Juste une dernière caractéristique des fils de Dieu. On voit dans les évangiles quelques expressions comme « nous sommes les fils de la paix » Matthieu 5. Fils de lumière, dans Luc et dans Jean 12, fils du royaume, fils du Père céleste. Là, c'est donc ce que nous sommes maintenant, mais là, c'est aussi pour satisfaire le cœur de Dieu. Mais je mentionne juste, parce que je pense dans Matthieu 5 aussi, le Seigneur parle du fait que nous sommes des fils du Père céleste. Donc, ça c'est pour satisfaire le cœur de Dieu. Même notre position ici-bas, c'est pas seulement pour représenter Dieu, comme les enfants de Dieu, mais aussi pour donner cette réponse au Père. Même dans la situation où nous sommes, pas seulement en rapport avec notre position, donc dans Éphésiens 1 et 2, en Christ, mais aussi le fait que nous sommes dans ce monde, Dieu veut avoir une réponse de notre part. Maintenant, un autre point en rapport avec les fils de Dieu, c'est que les fils de Dieu ensemble sont une compagnie de sacrificateurs. Et ça, c'est donc en rapport avec ce sujet que j'ai mentionné déjà, que nous sommes des adorateurs. Donc, une compagnie de fils mis ensemble pour adorer. Ça, c'est selon l'image de la famille d'Aaron. C'est clair, si on parle des enfants de Dieu, ça veut dire qu'ils appartiennent à la même famille. Mais aussi les fils de Dieu appartiennent à une même famille. Et puis dans l'Ancien Testament, on trouve la famille d'Aaron comme exemple. Dans le psaume 133, nous voyons Aaron et ses fils. Et puis on voit donc cette compagnie de sacrificateurs qui adorent Dieu. Et puis là, c'est remarquable, dans le psaume 133, on trouve aussi cette expression « la vie éternelle ». Cela m'a frappé de voir ça. Que dans ce psaume-là, qui nous parle de cette compagnie d'adorateurs, la vie éternelle est introduite. Puis c'est ça que Dieu veut. Il veut partager vraiment avec nous les secrets de son cœur pour avoir des adorateurs. On pourrait étudier beaucoup de passages là-dessus, mais on ne peut pas le faire maintenant, mais si on garde cette ligne de pensée que les fils d'Aaron sont ses sacrificateurs. Ce n'est pas seulement la famille d'Aaron, ce sont vraiment les fils d'Aaron qui répondent au désir de Dieu, qui ont donc une certaine maturité pour faire cela. Donc un fils aussi, pour répondre au désir de Dieu, il faut qu'il ait une certaine maturité. Et puis, on voit donc qu'en rapport avec le fait que nous sommes des fils, il y a des responsabilités, d'abord des privilèges et aussi des responsabilités. Je mentionne dans ce contexte-là encore l'Épître aux Galates, où nous voyons des empêchements. Si on se place sous la loi, on ne peut pas fonctionner comme adorateur. C'est impossible. On ne peut pas donner cette réponse dans l'adoration. Donc, chaque système humain, chaque système légal ou religieux, nous empêche à réaliser les pensées de Dieu, vraiment, à devenir des adorateurs. Ça, c'est très grave. Et on n'a pas le temps d'étudier tous ces versets-là en détail, mais on voit donc dans l'enseignement de l'Épître aux Galates que ceux qui se sont placés sous la loi n'étaient pas capables de fonctionner comme des fils de Dieu. Mais Dieu voulait les libérer d'un tel système pour les avoir pour lui-même. Maintenant, j'aimerais mentionner trois secret des fils de Dieu. On a vu déjà ce point-là de la direction de l'esprit. Ça, c'est le premier secret, vraiment. Parce que le monde ne peut pas voir ça. Mais Dieu le voit, par contre. Dieu voit si nous sommes dirigés par l'esprit. Et puis, un secret pour les fils de Dieu, c'est donc cette direction par l'esprit. Dieu veut qu'on réalise cette position de fils d'une façon pratique, donc en étant dirigé par l'esprit. Dans un monde hostile, où tout est contre Dieu, nous avons donc ce privilège d'être dirigés par l'Esprit. Et c'est absolument nécessaire pour pouvoir répondre au désir de Dieu. Maintenant, un autre verset, c'est donc le deuxième secret, on peut dire, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, dans Apocalypse 21, verset 7. Un fils de Dieu est un vainqueur. Donc, le premier secret, c'est qu'il est dirigé par l'Esprit. Les fils de Dieu sont des vainqueurs. Ça, c'est le deuxième secret, verset 7 de l'Apocalypse 21. Lisons aussi le verset 6. Il me dit, c'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, gratuitement, de la fontaine de l'eau de la vie. Celui qui vaincra, héritera de ces choses, et je lui serai Dieu, et lui me sera fils. Vous voyez ici, le secret des fils de Dieu, c'est qu'ils sont des vainqueurs. Ils ne sont pas fornicateurs, ou meurtriers, ou idolâtres, ou tous ces mots qu'on trouve dans le verset 8. Eux sont des vainqueurs dans de telles situations. Puis c'est pour chacun de nous différent. Pour être un vainqueur, il faut qu'on soit vainqueur dans la situation où on se trouve. Ça, c'est le test pour des vainqueurs. On peut être fort dans beaucoup de choses, mais c'est exactement là où Dieu me place, dans le contexte d'un rassemblement, disons, ou d'autres choses. Le test, c'est vraiment si je suis là un vainqueur, dans ce contexte-là. Puis on voit ici que ces vainqueurs partagent dans cette bénédiction de la vie éternelle, comme le verset 6 nous indique, cette fontaine de l'eau de la vie, parle de la vie éternelle sans doute. Puis Dieu partage donc cette bénédiction spéciale avec ceux qui vainquent. Et puis on voit aussi cette pensée, qu'on en parlera plus tard, de l'héritage. Mais le point à souligner, c'est « Et lui, je lui serai Dieu, et lui me sera fils. » Vous voyez, de nouveau, c'est pour satisfaire le cœur de Dieu. Donc le deuxième secret, c'est « Les fils de Dieu sont des vainqueurs dans une telle situation où le mal se trouve pour satisfaire le cœur de Dieu. » Et puis le troisième secret, c'est dans 2 Corinthiens 6, où nous voyons aussi les fils de Dieu, donc 2 Corinthiens 6, où nous voyons la séparation du monde comme secret. Dans 2 Corinthiens 6, versets 14 jusqu'à 18, mais je lirai seulement versets 17 et 18, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous, vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. » On a donc ici un troisième secret, mais c'est intimement lié avec le verset qu'on a lu dans l'Apocalypse, c'est la séparation de ce monde. Et puis Dieu reconnaît seulement comme ses fils et ses filles, ceux qui sont séparés pratiquement. Donc en autre mot, dans ce passage-là, on voit que Dieu reconnaît seulement de tels chrétiens comme ses fils et ses filles qui sont séparés de ce monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas séparés de ce système du monde, qui sont quand même des chrétiens, mais Dieu ne peut pas les reconnaître comme étant ses fils pratiquement. Ils le seront lorsque le Seigneur Jésus viendra pour les introduire dans le ciel. Ils seront aussi des fils de Dieu. Mais Dieu veut déjà maintenant des fils de Dieu. Et donc, un de ses secrets, c'est que on est séparés de ce monde pour satisfaire le cœur de Dieu. Et puis là, il s'identifie avec nous. Il dit, comme nous avons lu, « Je vous recevrai et je vous serai pour père et vous, vous me serez pour fils. » Quelle joie pour le cœur du Père d'avoir de tels chrétiens, que nous puissions donner cette réponse. Maintenant, ce grand sujet de l'héritage. On a vu la dernière fois que les enfants de Dieu sont aussi appelés des héritiers. Mais je voulais juste résumer ce point-là pour voir aussi la différence maintenant. En rapport avec le fait que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes maintenant associés à un Christ rejeté et nous régnerons avec lui en gloire sur ce monde où il est rejeté. Ça, c'est clair. Et dans ce sens-là, c'est notre héritage. Et tout le monde va voir ça. Dans Jean 17, nous lisons même, dans le verset 22, que le monde nous verra. Et il y a d'autres passages qui confirment cette pensée-là. Mais en rapport avec les fils de Dieu, nous sommes héritiers aussi. Et là, il y a deux points à ressortir pour le moment. D'abord, donc ce point-là, que Dieu partage toutes ses bénédictions avec ses fils. C'est donc pas le fait que nous régnerons sur ce monde comme enfants de Dieu avec le Seigneur Jésus. Non. La pensée en rapport avec les fils, c'est que Dieu partage avec ses fils tout. Et puis là, maintenant, distinguer deux choses. Dieu partage avec nous. Maintenant, on va revenir à l'Épître aux Éphésiens. D'abord, le règne dans le millénium. On voit dans Éphésiens 1, verset 10, on lit là de ce propos de Dieu pour l'administration de la plénitude des temps. Donc, Éphésiens 1, verset 10. L'administration de la plénitude des temps. Savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ. Les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui. Verset 11. En qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Donc ici, nous voyons que nous sommes des héritiers, mais c'est comme les fils de Dieu. Les fils de Dieu seront des héritiers selon le propos de Dieu, mais c'est ici en rapport avec ce règne millénaire du Seigneur Jésus. Il y a Maintenant, un autre aspect, c'est donc ce que le monde va voir des fils de Dieu. Comme on l'a lu aussi dans Romains 8, la délivrance des fils de Dieu, ça c'est la même pensée. Donc, c'est l'héritage maintenant pour les fils de Dieu que Dieu partage tout ça avec eux. Mais il y a un autre aspect de l'héritage, et ça, ça va beaucoup plus loin. C'est une partie que le monde ne connaîtra pas. Le monde ne verra jamais cette place que nous avons dans la maison du Père. Dans la maison du Père, nous avons une portion spéciale comme étant ses fils. Et pour cela, on aimerait lire maintenant le verset 18, où nous lisons donc d'abord cette intelligence que Dieu donne au Fils, et verset 18, « Pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. » Donc, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Ici, donc, nous voyons que Dieu a aussi un héritage. Et on peut dire, les fils, donc, recevons quelque chose, les fils reçoivent quelque chose, nous recevons quelque chose comme fils, l'héritage est pour nous. Et c'est donc cette portion dans la maison du Père, ça c'est l'héritage pour nous. Et Dieu, il possède son héritage dans les saints, donc dans ses fils. Ce sont les deux côtés. Nous recevons cet héritage de la part de Dieu, et Dieu jouit de cet héritage, et c'est son héritage à lui, dans les saints. Et ce sont des choses donc que le monde ne voit pas. Les bénédictions que nous avons dans la maison du Père sont des choses que le monde ne voit pas, absolument pas. Donc c'est vraiment nécessaire à distinguer ces deux aspects de notre héritage. Je pense qu'il y a encore un verset dans le chapitre 3, le verset 6, oui, qui nous parle aussi de cet héritage-là, verset 6, « Savoir que les nations seraient co-héritières et d'un même corps et co-participantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. » On va revenir à ce verset encore à la fin. Donc, on a ici cette pensée-là que Dieu voulait partager avec nous quelque chose qu'il avait réservé dès avant la fondation du monde. Et ça, c'est cette portion-là qu'on a lue dans Tite, cette vie éternelle. Dieu a réservé cette portion avant la fondation du monde déjà pour la partager avec nous. Puis ça, c'est vraiment merveilleux de voir ça, que Dieu voulait avoir une compagnie de fils, une compagnie d'adorateurs, une compagnie de sacrificateurs, pour, on peut dire pour cette compagnie, Christ est tout. Et puis à cette compagnie, Dieu a donné tout. La vie éternelle. Tout ce que Dieu pouvait donner, il a donné à cette compagnie. Donc, aussi ce verset dans Éphésiens 3 qu'on a lu maintenant, cette promesse parle de ça. Parce que, quelle promesse? C'est vraiment cette promesse dans le Christ Jésus. C'est cette même promesse que nous avons vue dans Tite et qu'on trouve aussi dans 2 Timothée 1. Cette promesse en relation avec la vie éternelle. L'apôtre Paul ne parle pas souvent de la vie éternelle, mais si on compare donc ces passages-là, même des écrits de Paul, on peut comprendre qu'il parle ici de cette vie éternelle. Et puis, c'est donc cet aspect-là que le monde ne verra jamais. C'est notre héritage, mais comme nous avons vu, cette portion a déjà une grande valeur pour notre cœur maintenant. Et on peut dire, dans la mesure où moi j'apprécie cette portion maintenant, je peux donner une réponse à Dieu. Et dans cette mesure-là, je fonctionne comme fils. Ça, c'est le point, je pense. On peut lier ça aussi à Galates 6, verset 8, où nous avons la moisson du pays. Parce que vous voyez, ces choses-là, on peut dire, sont les choses, les fruits du pays, vraiment. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, il nous parle du pays. Et puis, ces choses-là sont liées aussi à l'esprit, comme on a vu, et puis c'est par l'Esprit, dans Galates 6, celui qui sème, verset 8 à la fin, celui qui sème pour l'Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Si Dieu nous a donné le pays, c'est afin que nous ayons du fruit dans ce pays. Donc, un cultivateur, il a un grand champ, c'est pas suffisant, il faut qu'il fasse quelque chose. Il aime son champ, mais il travaille. Et c'est pour nous la même chose, les fils de Dieu s'occupent de ces bénédictions. Et puis, il sème donc pour l'Esprit, et par l'Esprit, il maçonne la vie éternelle. Donc, Et dans cette mesure-là, il y aura du fruit pour Dieu, pour satisfaire le cœur de Dieu. Et même ce matin, dans Jean 6, nous n'avons pas parlé de ça, mais nous avons aussi cette expression, la vie éternelle. La vie éternelle est partagée déjà avec nous maintenant. Maintenant, pour terminer, ce lien avec l'aspect collectif. J'ai dit, d'un côté, Paul nous présente l'assemblée, nos bénédictions collectives. Et puis, on a vu en rapport avec les enfants de Dieu que, quoique cette bénédiction est individuelle, nous sommes vus collectivement comme épouse de Christ. Parce qu'en rapport avec l'enfant de Dieu, on a l'aspect de la représentation, le témoignage public. Donc, comme enfant de Dieu, collectivement, on est vu sous l'image de l'épouse. Apocalypse 19. Et puis, la cité céleste, Apocalypse 21, ayant la gloire de Dieu. Donc, les enfants de Dieu sont vus ensemble, je pense, comme l'épouse, pour montrer la gloire de Christ, pour montrer aussi la gloire de Dieu, comme la cité céleste. Mais en rapport avec les fils, nous avons une autre pensée, mais surtout aussi dans l'Épître aux Éphésiens, on a vu que Dieu veut avoir cet héritage dans les saints, verset 18, dans le premier chapitre. Donc là, on voit la maison de Dieu. Donc ce que j'aimerais suggérer, c'est que les fils sont liés avec la maison de Dieu, Dieu qui habite dans les saints, Dieu qui a son héritage dans les saints, et puis c'est très clair aussi dans Éphésiens 2 que Dieu habite dans les saints par l'Esprit. Donc Dieu habite en nous par l'Esprit. C'est donc cette habitation de Dieu par l'Esprit, chapitre 2, verset 22. Ça c'est donc l'aspect collectif. Les fils d'un côté, c'est une bénédiction très spéciale, très individuelle, en relation avec Dieu. Et puis en même temps, ça va ensemble avec cette relation que nous avons collectivement avec Christ dans la gloire. Nous sommes la maison de Dieu, où Dieu habite. Et puis, les fils sont aussi liés au fait que nous sommes le corps. Et j'aimerais suggérer, à la fin du verset 18, Paul, dans sa prière, mentionne aussi un autre point. Quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force? Cette prière continue jusqu'à la fin du chapitre et même la pensée continue jusqu'au verset 6 dans le chapitre 2. Là, nous voyons que nous sommes sauvés, ressuscités et que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Mais entre ces versets-là, il y a cette pensée du corps de Christ, que nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes donc mis dans un même corps, et puis dans le verset 6 du chapitre 3, nous avons lu ça, que nous serions co-héritières et d'un même corps, et co-participantes de sa promesse. Donc ici, la pensée du corps est liée aux héritiers, et on a vu aussi la promesse qui parle de la vie éternelle est introduite là-dedans. Donc, c'est vraiment un verset très riche, parce que d'un côté, on voit là les fils de Dieu comme les héritiers qui ont cette vie éternelle, et en même temps, on voit cette pensée du corps. Donc, ça confirme cette pensée-là qu'on a déjà dans le premier chapitre, que les fils de Dieu sont vus aussi en rapport avec le corps de Christ, les co-héritiers et co-participants de sa promesse. Donc, on peut dire, les fils de Dieu, c'est une part que Dieu s'est réservée dès avant la fondation du monde. Il va l'avoir, même si nous manquons à donner cette réponse-là, Dieu va l'avoir quand même. Mais c'est une joie très spéciale si nous pouvons répondre déjà maintenant au désir de Dieu pour être des fils. Et ça suppose donc une vraie communion maintenant. Dieu veut une vraie communion. C'est pour cela la séparation qui est nécessaire, comme on a vu. Il veut aussi une vraie adoration. Il ne veut pas seulement des formes. Il veut la réalité. Et dans cette mesure-là, on sera un bon plaisir pour lui-même. Quelle joie pour le cœur de Dieu d'avoir des fils pour lui-même. On a vu un peu dans le cas de David, dans 1 Samuel 16, que Dieu voulait avoir un roi pour lui-même. Voilà. ce que Dieu veut avoir pour lui-même, c'est d'avoir plusieurs fils. Puis, je n'ai pas mentionné ce verset-là, mais c'est vraiment un verset merveilleux dans Hébreux 2, que Christ a souffert pour amener plusieurs fils ou beaucoup de fils à la gloire. Ça, c'est le plan de Dieu, d'avoir plusieurs fils qui participent à la gloire. Et la prochaine fois, Dieu voulant, on va voir donc que le Seigneur Jésus partage avec ses frères. C'est ici Dieu qui partage avec ses fils. Et Dieu voulant, la prochaine fois, on espère voir que c'est aussi le Seigneur Jésus, comme le premier-né d'entre beaucoup de frères, qui partage avec nous, ses frères. Donc, c'est juste pour donner un peu le lien. Donc, que Dieu nous aide à réaliser ce merveilleux plan. Et c'est donc selon sa grâce qui nous a introduits dans cette position. Mais Dieu n'est pas satisfait d'une position comme telle. Dieu veut que nous marchions dans cette position-là, que nous réalisions cette position-là. Et là, Dieu est satisfait. Et que nous soyons donc des adorateurs, des sacrificateurs, pour être le bon plaisir du Père. Et avec tous ces passages-là, on a vraiment beaucoup de nourriture pour méditer de chaque mot, chaque verset, pour mieux comprendre et aussi mieux réaliser ce que nous sommes comme fils de Dieu. Que le Seigneur nous aide.